Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. On se retrouve dans un nouvel épisode de la série d'interviews qu'on réalise à Des Bretzels et des Jeux. Et on a fini les interviews du samedi et nous voilà le dimanche 10 juin.
Juin, 10h00.
C'est ça.
Frais, comme des gardons.
Comme des gardons, tout à fait. Ou comme des salades pour les végétariens, il faut le dire. Et pour inaugurer cette série d'interviews du dimanche, on reçoit deux gars de Funky Ship, c'est-à-dire Fabien. Salut Fabien.
Bonjour.
Et Stéphane.
Bonjour.
Qui a priori sont frères, si j'en crois.
Tout à fait.
Ouais, tout à fait. Parce que vous avez le même nom de famille, alors je me suis dit, il y avait quand même des chances.
Mais vous n'avez pas la même pilosité, donc ça laissait un petit doute.
C'est ça, on voulait se différencier quand même d'une façon, voilà.
Faites ça depuis l'enfance? Vous...
Voilà, c'est ça. Mais ensuite, tu vois, le monde a changé, on aurait pu être mariés.
Oui, oui, carrément, ouais. Non, mais c'est pour ça que je demande, parce qu'on ne sait jamais. Et du coup, alors, bien sûr, nous, on est arrivés à l'heure, même en avance, le matériel était prêt. Qui est arrivé au dernier moment, bien sûr?
Notre président.
Le président.
Bande d'enfoirés.
Alors non, il est arrivé à peu près à l'heure, mais bien sûr, il va prendre le temps de prendre un café avant de se mettre au micro.
Et là, il a une excuse pour pas s'asseoir au micro, bah, c'est qu'on en a que quatre. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est, il faut donner plus au Tipeee pour gagner de la thune. Ouais. Alors Funky Ship, première question, est-ce que ça vient de Funky Ship de Prodigy?
Moi, j'y ai pensé. En fait, je voulais trouver un truc qui sonne bien, mais effectivement, ça vient un peu de là.
Et un autre rapport avec Funky Town?
Là, non.
Non.
Non, et puis Funky Shit, tu vois, il y avait un côté. Sinon, ouais, d'où vient le nom? Alors, parce que c'est le mouton rigolo. Alors, Dédé Chute, un de nos membres, est fan de jeux de moutons, donc je suis sûr que le nom de votre société lui plaît beaucoup.
Bah, j'espère. Et ensuite, sur le truc, en fait, c'est juste une question de sonorité, de trucs fun, qui marchaient bien.
À l'international, en plus.
Exactement.
Et alors, là, vous êtes sur des boîtes et des jeux. Que présentez-vous sur le festival?
Je vais laisser mon frère parler un petit peu.
Alors, oui, hein. Tu lui prends la parole comme ça depuis ton enfance aussi? Tu l'empêches de
même
s'exprimer?
Pas. En fait, même pas. Habituellement, c'est lui qui accapare la parole. C'est vrai alors... qu'il y a des micros, donc il est un peu timide. Mais
ah, ouais, voilà, c'est ça.
Alors, ouais, qu'est-ce que vous présentez sur Des Bretzels et des Jeux?
Habituellement, on se coupe aussi souvent la parole, donc là, on va essayer
on fait attention.
De pas le faire, c'est pour ça. Sur Des Bretzels et des Jeux, on présente, Badass Force, qui est un jeu de bluff, un jeu de Guy Lamasson, illustré par les magnifiques caricatures de Anthony Geoffroy. Mm-hmm. Qui sortira sur Kickstarter, normalement si on arrive à tenir nos plannings cette fois, en septembre.
Voilà. D'accord, donc ça c'est le jeu principal que vous présentez?
Oui, tout à fait.
Vous présentez autre chose ou uniquement celui-là dans la prévision du Kickstarter?
Pour l'instant, sur Des Bretzels et des Jeux, on ne présente que celui-là. Sur Paris Ludique, on aura deux tables de Badass Force et normalement, on présente également Speed Dynamite.
C'est le premier jeu que vous allez éditer?
Oui, tout à fait.
Également via Kickstarter du coup?
On ne sait pas encore. Pour les suivants, on n'a pas l'optique de présenter tous nos projets via Kickstarter forcément. Il peut tout à fait y avoir des projets qui sortiront directement en boutique. Je pense que ça, c'est plus en fonction de la typologie du jeu, de ce que ça dégage et de la type potentiel que ça va se gérer.
Par contre, si je peux préciser, en fait, on a un distributeur, on est chez Pixie. Du coup, la vocation des jeux, c'est quand même d'arriver en boutique.
D'accord, il n'y a pas le Kickstarter ni quoi qui est dans l'idée, en tout cas pour les jeux.
C'est, c'est Kickstarter et ensuite il y aura une version boutique.
Et donc, pour le premier jeu, vous passez par Kickstarter, c'est pour mettre le pied un peu à l'étrier,
Mais il y a de ça, mais c'est aussi parce que
faciliter le démarrage.
Il y a de ça, mais c'est aussi parce que le jeu, il correspond bien à la cible sur Kickstarter.
Ouais, alors je sais pas, j'ai pas vu le jeu, mais ça m'évoque effectivement un truc un peu coloré, comics, un peu effectivement.
Alors, on est sur des caricatures
un peu.
Exactement, caricatures des acteurs des films d'action années 80-90.
Alors si vous deviez en choisir un chacun.
Mon préféré pour l'instant au niveau du pouvoir illustration, c'est Bruce.
Qui est en référence à Willis, j'imagine.
Tout à fait.
Ouais.
J'aurais dit le même. Maintenant, deuxième choix. Sur la boîte de base. Ah, il y en a un qui est extrêmement opportuniste, mais qui est tellement bon quand ça passe. Steven.
De Seagal, donc.
Ouais.
Et la fourmi, le fameux. Et
du coup, vous êtes des fans de Last Action Hero? Ça vous a inspiré ce film?
Ah, c'est une des inspirations, mais il y en a plein d'autres.
C'est une. Je crois que dans la conception ou dans le développement du jeu, même si Guilin avait fait un super boulot, mais moi j'ai revisionné entre 80 et 90 films.
Donc un gros travail de recherche en amont.
Ah, on essaye ouais. Sur les, parce que on a plein d'univers différents et j'ai essayé de faire en sorte que ceux qui sont fans de l'univers de chacun des personnages puissent retrouver
des
petits clins d'œil, des choses emblématiques. Et puis chaque fond est différent et correspond plus à l'univers du personnage.
autant dire que c'est un casse-pied parce que quand il envoie ses briefs perso, il y a plein de détails et l'illustrateur fait OK, j'ai un peu de place pour de la créativité quand même.
Ah du coup t'es assez directif.
Un petit peu, en fait, il est surtout casse-burne, mais voilà. Mais le résultat vaut le coup.
Non, je pense que je suis exigeant.
Ah oui.
Voilà,
c'est ça le mot.
C'est la même chose.
Bon, on veut pas déclencher un conflit familial.
Alors, est-ce que vous avez joué à Broforce?
T'inquiète, il y en aura pas.
Alors, non, nous on est pas
Broforce, un jeu vidéo.
Voilà, nous on n'est pas très jeu vidéo, mais en fait, parmi tous les gens qui s'arrêtent à la table, bien sûr, la référence leur arrive tout de suite.
Il y a un jeu qu'on peut jouer en coop où là aussi on incarne des gloires, des films d'action de manière très.
Surtout sur la boîte de base, là, on est clairement expandables.
Ouais.
Et donc, ça fait vraiment penser à du Broforce.
D'accord.
Je comprends bien.
Et alors ce choix donc de Kickstarter, Guillaume Masson, c'est donc l'auteur de Not Alone, si je dis pas de bêtises, entre autres, hein, ouais. Il a fait d'autres trucs, il me semble, mais j'ai plus les noms en tête. Comment ça s'est passé justement le sourcing? Parce que le nom me dit quelque chose. Il a toujours été chez vous?
Non, en fait, le jeu originellement, il avait été signé par la boîte de jeux.
C'est ça. Ah voilà, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Parce...
sous un autre nom.
Ouais.
Et,
oui,
et finalement,
fait,
ça n'avait pas
ça.
Pu se faire.
C'était même il y a quelques années de ça.
Ouais, oui. Ça s'appelait le nom du projet, c'était Hollywood Squad.
Yes, c'est ça, oui.
Et Guilin a récupéré les droits parce que ça s'est pas fait. Et...
c'est ça, ouais. C'est, ça date effectivement d'il y a quelques années. Benoît de la boîte de jeu avait laissé tomber parce qu'il avait fait d'autres trucs. Et donc, vous avez récupéré ça comment?
De manière assez opportuniste. Non,
Ah, mais en termes de sourcing, comment s'est passé le contact avec Guilin justement? Parce que c'est aussi votre premier jeu, donc.
Ouais, non, je comprends. En fait, on a rencontré Guilin la finale de Boulogne.
CNJ.
De Boulogne Beer.
Ouais. En septembre, il y a 2 ans pratiquement, présenté Not Alone. Il a gagné le prix avec.
Qui a été édité par le gag.
Donc c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Ensuite, comme il est parisien, et que nous aussi on est parisien, on a pu le rencontrer ensuite sur des soirées jeux au Mésia ou ailleurs. À force de se voir, il nous a dit je vous vois sans arrêt, ce serait peut-être pas mal que je vous présente d'autres projets que j'ai sous le coude. Et du coup, il nous a présenté ce projet-là et on s'est dit ça va le faire, je pense. Ça D'accord. correspond à ce qu'on veut faire.
Et alors, vous aviez déjà l'idée, c'est quand puisque vous aviez l'idée de lancer Funky Ship et de devenir éditeur?
Alors c'est moi qui ça m'est arrivé en premier. C'est moi qui ai voulu créer la boîte d'édition à la base. C'est moi qui suis
le joueur. Qui est né chez vous?
C'est lui.
Mais c'est quand même toi qui a eu l'idée en premier.
La force du cœur.
Voilà.
Et je l'ai entraîné avec moi. Je me suis dit tout seul ça va être compliqué, donc je l'ai entraîné avec moi.
D'accord.
Mais l'idée, pour moi, elle date d'il y a quelques années déjà, mais c'est fin 2016, je crois, que j'ai réussi à le convaincre de m'accompagner.
Mais attends, j'ai retrouvé un tableau dernièrement où j'avais pris une photo. Je crois avril 2016, on était déjà en train de cogiter pas mal dessus. Ouais.
Ouais. C'était même avant.
Ouais, avant. Je dirais fin 2015.
D'accord, ouais. Donc ça, c'est une vieille idée. Une vieille idée. Ça date d'il y a 3 ans. Mais pourquoi se lancer dans l'édition? Vous étiez déjà joueur depuis combien de temps?
Moi, je suis joueur. Lui, pas du tout. À la
D'accord.
base.
Lui, c'est la caution marketing.
C'est bien parce qu'il a une vision de non-joueur à la base. Et ensuite, maintenant, il se fait une culture ludique au fur et à mesure. Mais il a un point de vue différent.
Ouais, bien sûr, ouais.
Donc c'est vachement intéressant.
Bon, même si je t'avouerais qu'en 3 ans, je mangeais un grand paquet, je pense pas être ridicule aujourd'hui, même si évidemment j'ai pas la même culture
ludique. Mais t'as pas le même background, mais
du coup t'as replongé dans les anciens jeux aussi pour un peu découvrir un peu l'historique.
Vous êtes complémentaire, c'est ça, c'est la complémentarité qui vous caractérise.
Bah, on pense, oui.
Et alors pourquoi se lancer en famille là-dedans? Quelle idée?
Je veux dire pourquoi pas. Il fallait bien que j'avais quelqu'un sous le coude et je l'embarque avec moi.
Ouais, puis je pense que ça permet de... Enfin, les rapports sont forcément différents. Si vraiment il y a quelque chose qui... et ça arrive, hein, parce que... qui va pas, on se le dit directement, ça c'est plus ouvert.
Ah oui, on s'engueule facilement.
C'est plus facile de s'engueuler en famille qu'avec un associé.
C'est ça, on se réconcilie très vite.
On a l'obligation de marcher main dans la main derrière.
Ouais, donc Badass Force, il y a tout ce développement, vous travaillez dessus depuis quand?
Cannes, pas le dernier, celui d'avant. Donc
2017,
un an,
ouais.
Un an et demi,
ouais, bientôt.
Tout à fait, oui. Ouais.
Et comment ça s'est passé, le développement, justement, la recherche d'un illustrateur, le travail de l'univers? Parce que la difficulté, c'est justement, tu parlais des clins d'œil tout à l'heure, la difficulté, c'est de faire des clins d'œil, mais sans que ce soit excluant pour ceux qui ne les auraient pas, quoi, un peu comme dans les films qui font des références, et que finalement, c'est chiant pour ceux qui les comprennent pas.
Alors voilà. Là, j'ai envie de te dire, c'est plus ma partie, le contact que j'ai avec Anthony. C'est là où parfois, je le ramène à quelque chose de plus esthétique, ou en tout cas je lui dis que lui il a développé un univers purement caricatural pour les fans de caricature. Pour moi c'est l'un des meilleurs au monde dans son domaine. Cela étant, effectivement, tout le monde n'est pas forcément fan de caricature, donc au niveau des formations souvent je le restreins un peu pour essayer de faire en sorte que ça soit pas trop déformé, que esthétiquement, notamment sur les nanas, j'en ai quelque chose de plus soft.
Oui, parce que les gros seins, etc. C'est tu veux dire au niveau à ce niveau-là ou
non, même de façon esthétique. Par exemple, on a une première version d'Uma qu'on a sortie assez vite parce qu'elle faisait partie de la boîte de base, et pour autant, je suis quand même revenu dessus parce que ça matchait pas tout à fait, et parce qu'on a essayé aussi, c'est pareil en termes d'équité, de faire en sorte qu'il y a à peu près autant de nanas que de mecs, même si elles avaient moins les premiers rôles à l'époque et qu'on, comme on est obligé d'être un peu dans la lignée de ce qui se faisait.
Tu vois, la difficulté entre représenter une époque et la transposer à aujourd'hui où les mentalités ont pu évoluer, quoi.
Aussi.
Donc, il y a qui comme, comme femme, justement, dans le, dans le, dans la team? Il y a donc Uma qui est Masterman, j'imagine.
Ouais.
Il y a Sigourney.
D'accord.
Et il y a celle que personne n'arrive à reconnaître, ou peu de gens. L'actrice qui a incarné Sarah Connor dans les Terminator.
Dans les Terminator.
Ah, dans le 1 et le 2?
Ouais.
Ouais, ouais. Non, non, mais il y a que le 1 et le 2 qui existe, de toute façon, voyons.
Ouais.
Mais donc, à partir du moment où on utilise, on a, c'est un choix de notre part, hein.
Du coup, je vais donner son nom quand même. Hein.
Oui, vous l'avez pas appelé Sarah, ouais?
Non, elle s'appelle Linda Hamilton, donc c'est Linda.
On utilise le prénom des acteurs ou actrices, mais dans leur, leur prénom, pas de scène, hein, forcément, leur vrai prénom. Et du coup, effectivement, Linda, ça parle pas forcément à tout le monde au premier abord.
Après, le visuel peut compenser, j'imagine, du coup.
Ah bah oui, t'as le Témine dans la dans la lave derrière et autres. On a essayé sur le background, mais pour autant, bon.
Et pourquoi vous avez pris le prénom des actrices et pas leur prénom dans le film?
C'est la même chose pour les acteurs. Hein.
Oui, c'est la même chose pour les acteurs. Ouais.
Pourquoi on a fait ça?
Il y a un problème de droit si on utilise le prénom dans un film mais pas le prénom d'une vraie personne.
Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que tu te prémunis un petit peu plus des soucis avec les studios. Ceci dit, comme on prend les prénoms des acteurs, c'est les acteurs qui pourraient venir nous ennuyer un peu en disant qu'on vous exploitait notre image. Mais en fait, c'est ça que les gens retiennent. En fait, quand je mets Chuck Norris dans un jeu, les gens ont envie de dire je suis Chuck, pas je suis je sais pas qui dans quel film.
Après, au niveau de
ça marche mieux.
Au niveau du droit, je crois qu'au niveau de la caricature, c'est quand même assez, il y a des, j'imagine, un cadre légal, mais qui est quand même plus soft au niveau de la caricature, je crois, que justement dans la représentation plus fidèle de quelqu'un, il me semble, en tout cas. Mais...
Alors, j'ai fait des recherches en sang, je suis allé voir des avocats. Déjà, il faut faire la différenciation entre le droit français et le droit international.
Ouais.
Et le droit américain avec son extraterritorialité, en plus.
Voilà. En droit français, il y a le droit à la caricature, sous couvert du fait que tu ne te moques pas. Il y a, je crois, une jurisprudence sur un jeu de cartes qui s'appelait Giscard, je crois.
D'accord.
Il se foutait ouvertement du président.
Qu'on ne fait jamais autour de cette table.
Et en ce sens, il y a eu procès et il a quand même gagné. C'est-à-dire qu'il a, il a arrêté le jeu et il a réussi à faire en sorte que ça soit plus diffusé. Dans notre cas, déjà, les mentalités ont évolué, les choses ont évolué. Et en plus, nous, on leur rend plutôt hommage. Ils ont tous des pouvoirs de super-héros et on les représente dans leur, de gloire, enfin, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas.
Voilà, vous n'avez pas représenté John McClane dans Die Hard 5.
Oui, voilà, non. Non,
mais la référence, c'est plus Die Hard 3.
C'est ça.
Ah oui, préférence entre le 1 et le 3, j'exclus le 2 qui est de toute façon inférieur. Mais,
Moi, je sais pas, c'est difficile. Le 1 et le 3, c'est vraiment. Ils sont différents, mais moi, effectivement, c'est mes deux préférés.
Et puis, c'est deux pivots du film d'action.
Allez, on va dire, moi, je préfère le 1 et toi le 3. Voilà. En équilibre.
La complémentarité, la fameuse.
Pourquoi t'as pas proposé le 4?
Non. C'est pareil que Terminator.
Voilà, le 4 n'existe pas.
Voilà. Le 5 non plus. 3 Die Hard, 3 Indiana Jones, pareil. Et oui, donc tu disais, oui, au niveau de du droit, c'est vraiment l'envie de. Agiographique presque un peu, de leur rendre hommage. Là où ils étaient les meilleurs, quoi.
Ouais. Mais on sait qu'on prend, on a un risque, parce que, juste pour finir, donc, les États-Unis, c'est régi par le fair use. Donc, qui est quelque chose d'encore différent. C'est pas la même chose que sur le droit français ou le droit européen.
On connaît ça aussi dans le podcast. Les podcasts américains peuvent utiliser des musiques, donc c'est entre guillemets à volonté de mettre en avant et de dire du bien.
Oui.
Dans une certaine mesure, toujours.
C'est ça.
Et alors que si c'est dire ah oui machin, vous avez fait de la merde, etc. Là, on n'est plus dans le fair use. J'imagine que c'est un peu pareil aussi au niveau des illustrations, du coup.
De toute façon, ça évolue avec l'évolution de la technologie, qui permet une mise à disposition facile ou une appropriation facile des éléments, notamment musicaux. Et donc, c'est régi par des durées éventuelles qui font que tu peux te prendre une partie, mais ça ne doit pas durer plus de tant de temps et autres.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est sur la partie musique. Sur ce qui nous concerne, le fair use, j'ai réussi à faire en sorte d'établir une grille que je me suis procuré parce qu'il y a une université qui a fait une recherche en ce sens et que, tu as des cas. Par exemple, ce que tu disais était vrai tout à l'heure sur l'utilisation, mais pour autant, par exemple, le fait de l'exploiter commercialement, après, donne un malus, si je puis dire. J'ai créé, en fait, un truc qui fait que
t'as
une série de questions, t'en as certaines qui t'apportent des malus, d'autres des bonus, et c'est comme ça que ça se régit.
Faut que ça penche plutôt du côté des bonus, quoi.
Voilà. Il n'y a pas un cadre complètement légal qui dit tu as le droit ou tu n'as pas le droit. En fait, c'est plutôt une interprétation globale d'un ensemble d'éléments, et nous, on est plus tout dans notre bon droit.
D'accord.
Si j'ai bien monté tout ça, donc j'ai quand même un petit peu.
Et spam le fichier, c'est quelque chose que tu peux opposer en cas de problème, en leur montrant, bah voilà les plus et les éléments.
Ouais, on y, enfin, oui, en tout cas, c'est un document que tu peux.
Je pense que tu peux jouer avec ça, mais en fait, ça dépend de la qualité de ton avocat derrière. Les États-Unis, c'est un peu ça.
Ou des moyens que tu peux mettre. Hein.
Du nombre de zéros sur le chèque.
C'est possible. Ouais.
Et alors, au niveau justement de l'utilisation des de ces personnages dans certains films, parce que vu que vous utilisez le prénom de l'acteur, comment vous choisissez? Parce que Steven Seagal, par exemple, il a fait quand même un paquet de films où il peut être, même si c'est toujours Steven Seagal dans tous ses films, mais pour Bruce Willis, par exemple, entre Die Hard ou Pulp Fiction, ça va être une caractérisation vraiment différente. Comment vous avez choisi le film que vous allez l'illustrer?
Alors, il y a deux choses, il y a deux critères. Je pense que c'est déjà, est-ce que ça nous fait kiffer?
Ouais.
Et ensuite, est-ce que ça va parler aux gens? Qu'est-ce qui parle le plus aux gens, le plus populaire? Ensuite, pour Steven, tu peux peut-être répondre, parce que je crois que tu t'es tapé un paquet de films. Mais...
Je rajouterai une dernière chose, le pouvoir.
Ouais, ah oui, d'accord.
On essaye aussi de faire en sorte
on essaie de
que...
faire un truc thématique. Voilà.
On essaye de faire
ça
en sorte
ça avec la mécanique, ouais.
Bah oui, parce que plus t'es cohérent dans l'ensemble de l'univers que tu proposes, et plus c'est simple pour les gens se l'approprier, forcément. Si tu as une représentation visuelle de quelque chose qui leur parle directement et que le pouvoir correspond à l'idée qu'ils s'en font, directement c'est gagné.
Et du coup pour Steven?
Voilà. Parce que pour certains personnages c'est assez clair, il y a des films et des rôles en plébatique. Mais pour Steven ou Chuck par exemple, c'est vraiment Steven et Chuck qui sont intéressants.
D'accord.
Donc là, pour faire le choix de film, c'était plus compliqué.
Oui, bah comment j'ai fait, bah j'ai repris toute la bio de chacun, de là où ils sont partis, quand est-ce que ça a commencé à bien cartonner pour eux, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont émergé, qu'est-ce qui a été emblématique en nombre de vues pour les gens, qu'est-ce qui voilà.
Alors, en nombre de vues peut-être pour Chuck Norris, c'est peut-être ces séquences de téléachat sur les appareils de muscu.
Ouais, mais là c'est pas trop badass. L'occurrence.
Ah bah il fait tomber des buissons aussi. Hein, c'est vrai. En claquant des doigts, c'est franchement c'est chapeau. Hein, moi,
ouais.
C'est Chuck quoi. Non Steven, je suis reparti de sa période. Enfin, en gros, la représentation, c'est Hard to Kill.
D'accord, ouais.
Voilà, c'est Mason Storm, quoi.
Et le choix de Pixie comme distributeur se fait à quel moment? Sachant qu'ils ont déjà travaillé avec des éditeurs qui ont fait du Kickstarter, etc.
Il y a ça, il y a une proximité naturelle parce qu'ils sont dans notre région. Enfin, on est d'Île-de-France. Il y a le fait que nous, on a tourné longtemps en festival sans être exposant pour rencontrer beaucoup de gens. C'est un peu comme ça que ça s'est fait sur la première année. On s'est dit que ça serait une bonne chose déjà d'aller au contact des gens, voilà, pour voir comment les choses fonctionnaient. Et puis après, quand on a commencé à exposer, ben on les a vus régulièrement plusieurs fois. Et puis on a été amené à discuter. Ce qui nous a pas empêché d'aller voir d'autres distributeurs, de prendre contact avec eux. Et puis après, on a tranché sur les affinités. Voilà. Ça joue autant à l'humain que sur la partie.
On savait dès le départ qu'on voulait faire le projet sur Kickstarter, mais on voulait un distributeur.
Et du coup, toi, tu disais, toi, t'as un background ludique depuis un certain temps. Et toi, quel est ton parcours un peu, ton background? Tu disais, tu es beaucoup aussi sur la partie artistique, etc. Est-ce que c'est dû à ça ou?
Pas spécialement.
Non, ça, le côté artistique, c'est plus parce qu'il est vachement exigeant, vachement plus que moi. Et du coup, il a du mal à lâcher l'affaire sur des trucs qui lui vont pas. Donc, ouais. Je lui ai laissé.
Un coucou à Benjamin Treillou, le directeur artistique dessus, hein, parce qu'il me dit des fois, t'es quoi, vraiment quand même là, là-dessus, non.
T'es vraiment exigeant.
Oui, mais ça, c'est une caractéristique que j'ai dans mon boulot toujours. Hein, c'est une rigueur et peut-être souvent, on me disait que j'allais trop loin. Enfin, ça dépend, hein, mais. Comme on voit les choses, hein.
Ouais, bien
sûr. Je suis extrêmement perfectionniste. Ça, ouais. depuis très petit, hein.
Et c'est pas dû à un background de, je sais pas, graphiste ou, justement, dans.
Alors, non, parce que mes études sont assez classiques,
On a tous des études classiques, mais néanmoins extraordinaires.
Non, mais voilà, si je te dis que j'ai fait une école, de technologie de l'information, et voilà.
D'accord.
Donc, derrière des boulots, plus dans l'informatique, le développement et autres, c'est somme toute assez classique aujourd'hui.
Qu'est-ce que t'en penses de ce classicisme?
Sans commentaire.
Voilà. Voilà. On en a un autre autour de la table. D'accord. Et donc ça, bon, on a fait un peu le tour de Badass Force, justement. Le choix du titre de renommer là-dedans, parce que Hollywood Squad avait aussi, ce côté, assez représentatif de l'imaginaire qu'il voulait développer. Badass Force, ça a changé quand et pourquoi ce choix-là? Les deux sont internationaux aussi, en plus.
Je crois qu'on a eu l'idée de changer le nom assez vite, quand même, de trouver, de se l'approprier, d'envoyer un truc qui, voilà. Il fallait que ça envoie du lourd, quoi.
Déjà, y a
et
ça.
Ensuite, on a buté pas assez longtemps, je crois, pour trouver un nom qui nous plaisait et qui plaisait aussi à l'auteur. Et finalement, c'est lui qui a trouvé le nom. Et ça matchait direct, hein. On a dit Badass Force.
Je crois qu'on a...
Teste. Ça va être ça.
C'est comme pour tout, tu proposes énormément de choses, avec beaucoup de terminologie, plein de termes. Et puis, il y a des termes qui, quand tu bosses pas mal, des jours dessus ou tu reviens dessus, il y a des termes qui reviennent. tu t'aperçois.
C'est vachement badass, tu dis.
Donc voilà, et donc le terme badass est revenu assez souvent.
Après, c'était avec quel mot mettre badass.
On s'est dit, voilà, et après, avec quoi on peut le matcher. Et c'est sur un... Enfin, pour rien cacher, c'est au retour du Festival de Reims des Jeux que Guinan nous a sorti dans la bagnole. Et si on appelait ça Badass Force,
vous êtes dit, c'est le bon match, quoi.
Direct.
Donc pour ça, on... sur festival.
Ouais, juste ouais, sur le jeu suivant. Redis-moi le nom, c'est.
Pour l'instant, en prototypal, il s'appelle. C'est un proto de Philippe Tapie-Moquet de Galois et des frères Picard.
Que les
Vivien et
gens
Rémi
de la
Picard.
Communauté des ludistes francophones connaissent bien, mais pas que. Hein, il a officié sur 20 jeux. C'est une figure connue du jeu de société, disons, pour ceux qui s'y intéressent. Qui est déjà auteur aussi. Hein.
Le nom du proto, oui, bah, il va y avoir Icahn qui va sortir. Fait, ouais. Il a sorti Blackwood, chez Rune Edition.
Ouais.
Et pour l'instant, le nom du proto, c'est Speed Dynamite.
D'accord. Et là, c'est sur quelle thématique, a priori ?
Très simple. Bomberman.
Bomberman ? Une adaptation de Bomberman en...
Ouais, ça joue temps réel, chacun pour soi.
D'accord.
Là, tu joues, tu comprends tout de suite où est la référence.
Ouais, party game, quoi.
Ouais, est-ce qu'on peut dire ça ? Ouais, enfin, c'est un jeu facile à prendre en main, mais je sais pas si on peut appeler ça un party game. Mais...
C'est des parties de combien de temps, ça doit
pas jouer assez.
C'est rapide, ouais.
Ouais, c'est rapide, ouais. C'est ça, ouais, parce que les parties de Bomberman sont très rapides et très violentes.
C'est des petites manches de une minute, même, et c'est violent aussi.
Ça peut. Évidemment.
Ouais, enfin, on n'a pas encore calibré exactement, mais c'est des manches de une minute, et donc on en joue 6, 7, 8 en fonction du nombre de joueurs.
Okay. Ouais, donc si le joueur est éliminé, il a pas beaucoup à attendre, quoi.
On n'est pas éliminé. On marque des points en explosant les autres.
D'accord, ouais, ok. Si on se fait exploser, l'autre marque juste des points.
Okay. Exactement.
C'est super intéressant en termes d'expérience, je trouve.
Ouais. Ça doit être assez, j'imagine.
Hyper dynamique.
Ouais. Et lui, il s'est inspiré clairement de ce jeu vidéo-là, pour le coup, puisque c'est un jeu vidéo à la base quand même.
Alors, faudrait mieux le laisser parler, ouais, je pense. Mais je crois que le thème du jeu était déjà là. Je crois que le jeu avait été créé par les frères Picard, qui l'avaient présenté à un festival. Mm-hmm. Et donc, c'est là que Philippe l'avait vu. Et lui, il a changé un peu les mécaniques de jeu. Les mécaniques n'étaient pas les mêmes, mais le thème était déjà présent.
Okay,
et
ouais.
Du coup, il a voulu, lui, avoir sa touche et apporter quelque chose pour que ça retranscrive vraiment l'idée du jeu, quoi, l'idée du thème.
Ouais, d'accord, ouais, que le côté très dynamique soit d'autant plus présent.
Donc, au départ, on n'était pas sur du temps réel et il a apporté ça.
Bah, c'est l'idée, toujours pareil, de retranscrire au maximum aux joueurs des sensations.
Ouais.
Le nuage
mécanique, thématique.
Quand tu développes, voilà, ce qui compte, c'est les sensations que tu veux que ça procure quand tu joues.
Et donc ça, pour l'instant, c'est en proto, vous le faites tourner, c'est encore en développement, quoi. De toute façon, ce sera pas avant 2019, du coup, j'imagine.
Non, pas avant.
Ouais, c'est sûr. Oui, ça va encore tourner pas mal de temps. Ouais.
Ok. C'est quoi qui a à régler? Parce que c'est vrai que c'est l'expérience de jeu, c'est la durée des manches, c'est l'équilibrage, c'est.
C'est un peu tout ça.
Ouais.
C'est aussi que toutes les sensations soient présentes, que ça soit effectivement assez équilibré. Parce qu'un joueur qui est vachement rapide, il pouvait prendre vraiment l'avantage. Et on veut que tout le monde puisse y prendre du plaisir.
C'est un jeu quad réflexe un petit peu ou?
Bah, il faut de la vitesse, ouais. Mais pas que. Faut quand même observer un peu le plateau, faut un peu d'opportunisme. Mais quelqu'un qui va très vite, il a quand même eu un avantage.
D'accord.
Parce qu'il peut faire plus de choses, plus d'actions. Donc,
faut réussir à contrebalancer ça par d'autres trucs.
Voilà. Il faut que quelqu'un puisse rattraper son retard éventuellement. Sinon, ensuite, ça n'a plus d'intérêt.
Ok, donc ça en développement et puis à voir en 2019 du coup. Bah merci en tout cas d'être passé.
Merci à vous.
Bonne fin de festival. Après
merci
donc aussi. Paris Ludique, c'est ça, vous allez au Flip aussi ou...
Oui.
Ouais, c'est la tournée.
BEL, Flip, Bruxelles,
Orléans, BGF peut-être, Bruxelles.
Bruxelles on fait, oui.
Yes.
Orléans.
Et on pense à Dijon aussi.
On pense à Dijon.
Pensez à Dijon. Eh ben écoutez, c'est déjà une très bonne chose de penser à Dijon. Alors on va se quitter là-dessus sur une pensée pour Dijon. Ciao, merci.
Ciao. Merci.